Et c'est dans cet état d'accueil que nous souhaitons la bienvenue à tous les êtres de lumière présents dans cette pièce, dans cette salle, que ce soit dans la matière ou non. Et nous recevons ces vibrations dans le triangle d'or qui est le son, le souffle et la lumière. Et c'est dans cet accueil que nous souhaitons la bienvenue au chariot blanc, à ce véhicule de conscience nous reflétant cette conscience supérieure que la majorité d'entre nous est déjà.
Bienvenue à vous-même, mon maître.
Merci. Alors ce soir, nous sommes réunis ensemble pour apprendre à se regarder d'une façon peut-être plus ouverte. Et c'est par rapport au portrait de l'astral.
Eh bien, tant mieux, parce que nous sommes de verve ce soir. Nous allons d'abord commencer par vous offrir un commentaire d'ouverture que vous pourrez mettre dans votre poche et sortir quelquefois. Et nous vous offrirons aussi un enseignement qui suivra ce commentaire. Alors, le commentaire sera le suivant. Un jour, il y avait un tavernier. Tout le monde le connaissait dans la ville. Depuis déjà plus de 40 ans, il opérait sa taverne. Jour après jour, il y revenait. Parfois, il y restait jusqu'à 18 heures. Il connaissait tous les clients. Et nous vous dirons que quelquefois, il avait vu des bagarres et des moments difficiles. Un jour où il se sentit un peu fatigué, il dit à la femme qui l'accompagnait, « Je vais sortir dehors pour respirer. » Alors il alla un peu dehors se demandant s'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de son cœur. Peut-être une crise cardiaque, se disait-il. Mais en sortant dehors, il aperçut, là, jouant sur le perron, un petit garçon. L'enfant s'adressa à lui et lui dit, « Je suis heureuse que tu sois sorti parce que je voulais aller avec toi dans la montagne. Moi, aller dans la montagne, il y a plus de 50 ans que je vis ici et je n'y suis jamais allée. Ce n'est pas toi qui vas m'y conduire. » « Et pourquoi pas ?» dit l'enfant. Alors l'homme le regarda et se demanda comment cet enfant avait autant d'insistance. « Pourquoi insistes-tu » dit-il. « Tu sais, l'air est bon dans la montagne, et ceci ravive le cœur. »« Comment sais-tu » dit l'homme, en regardant l'enfant. « Je sais depuis longtemps, » dit l'enfant, « car depuis tout ce temps je t'attends. »« Depuis combien de temps ?» dit l'homme. « Depuis 40 ans. » Alors l'homme se mit à rire et il dit à l'enfant, « C'est à peine si tu as 7 ans, et tu dis que tu m'attends depuis 40 ans, et tu pourrais mettre des zéros après le 40 ans, dit l'enfant. Alors l'homme ne comprenait pas ce langage énigmatique, mais il décida de suivre l'enfant. Tout au long de la montée, l'enfant lui expliquait des choses. Et alors l'homme vit des jardins qu'il n'avait jamais vus, des arbres qui étaient tout à fait nouveaux pour lui, des parties de la montagne qui étaient tellement escarpées qu'il se disait « jamais personne ne pourrait y monter ». Et l'enfant lui disait « bien sûr, j'en ai accompagné d'autres ». « Mais tu peux retourner chez toi, » dit l'enfant. « Nous n'irons pas au sommet aujourd'hui ». L'homme retourna dans la taverne, mais là il était devenu obsédé. Obsédé par cet enfant, obsédé par cette montagne. Alors, jour après jour, il sortait dehors pour voir si l'enfant n'était pas là. Mais il n'y était pas toujours. Il y était dans certaines circonstances. Alors, voici qu'un jour, il sortit et il dit à l'enfant, « Je dois aller au sommet de cette montagne. » Alors, dit l'enfant, « Tu ferais mieux de prendre quelques jours de congé. » L'homme entra à l'intérieur. Il informa la dame qui l'accompagnait. Puis il partit avec l'enfant. Mais une fois rendu au sommet de la montagne, il s'aperçut qu'il y avait là un mur, un mur très haut. « Quel est ce mur ?» dit l'homme à l'enfant. « C'est le mur du privilège, » dit l'enfant. « Qu'est-ce qu'un mur de privilège ?» dit l'homme. « Je suis donc bien ignorant. »« Tu sais, » dit l'enfant, « ce n'est pas tout le monde qui a le privilège ou qui se donne le privilège de traverser ce mur parce qu'il le trouve trop haut, parce qu'il le trouve trop escarpé, parce qu'ils ont peur de tomber. Mais une fois qu'ils sont au sommet, ils ne veulent plus y revenir. » « Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, » dit l'enfant. Et alors l'homme dut redescendre la montagne et attendre encore 7 ans afin que l'enfant ne se présente. Puis au bout de 7 ans, l'enfant se présenta et il conduisit sans rien dire l'homme au sommet de la montagne. Et il lui dit, « Maintenant, tu as compris des choses, tu t'es libéré, alors je vais te montrer l'enclave secrète. » Et il lui montra quelque part une petite escalier intérieur qui le conduisait au sommet de la montagne, non seulement au sommet de la montagne, mais au sommet du mur. Alors, lorsque l'homme fut arrivé au sommet du mur, il se tourna et il dit à l'enfant, « Je ne peux pas revenir. » Alors l'enfant lui dit, « Il le faudrait bien. » « Et pourquoi ?» dit l'homme. « Pas pour toi, mais pour les autres. » Alors l'homme regarda pendant un long moment, comme s'il emplissait son cœur de soleil, puis il accepta de redescendre par ses espaces secrets. Puis il vint retrouver l'enfant, et il dit, « Je crois que je vais vendre ma taverne. » « Pas maintenant, » dit l'enfant, « commence par y travailler 6 jours, ensuite 5, ensuite 4, ensuite quelques heures semaine, mais... si tu veux rencontrer tes frères qui sont là, il faudra peut-être que tu y reviennes aussi. Mais moi, je ne veux plus y revenir pour moi. C'est enfumé, c'est rempli de colère. Je comprends, dit l'enfant, mais tu vois, moi, si je n'étais pas venu auprès de toi, comment aurais-tu su le lieu secret qui conduit au-delà du mur? Et alors l'homme dit à l'enfant, j'y consens. « Mais pour combien de temps faudra-t-il que je fasse ceci ?»« Jusqu'à ce que nous soyons assez nombreux, » dit l'enfant. Et alors l'homme, qui ne comprenait pas toujours ce langage énigmatique, fit confiance à l'enfant. Et la légende dit que plus tard, ils étaient 1000 et 2000 et 100 000, et qu'ensemble, ils traversèrent l'espace et qu'ils ne revinrent plus jamais dans la taverne. Cette histoire, elle est plus facile à mémoriser que de mémoriser des plans de l'astral. Car vous savez, l'astral, vous pourriez le considérer comme un lieu ou un état qui peut être considéré extérieur à vous si vous y pensez comme le lieu où habitent ceux qui ont quitté le plan terrestre. Mais il peut aussi être rattaché à votre vibration, si vous comprenez que votre aura est imprégnée de ces régions de l'astral. Alors l'astral comprend 7 plans. Et dans chacun des 7 plans de l'astral, il y a encore 7 plans. Ceci veut dire, dans le mur intérieur, 49 marches à franchir avant d'aller au sommet du mur. Vous pouvez aussi considérer que les plans de l'astral sont des plans qui sont liés à l'énergie de vos chakras. Lorsque vous parlez des 3 chakras de la base, vous parlez des 3 plans inférieurs de l'astral, là où il y a la guerre, là où il y a la division, là où il y a la souffrance et la douleur et l'angoisse et l'énergie de mort. Alors nous vous dirons, lorsque vous retrouvez à l'intérieur de vous ces vibrations, dites-vous que quelque part, il y a de vos cellules qui sont encore dans les plans, dans ces plans inférieurs de l'astral. Pour ce qui est de l'astral, nous dirons, plus large, où sont les âmes qui ont quitté le plan terrestre après ce que vous appelez la mort, nous vous dirons, il y a là des âmes qui sont perdues, des âmes qui sont errantes, des âmes qui ne savent pas où elles sont. Elles sont enfermées dans des formes de cocon, de lumière sombre, comme si la lumière pouvait être sombre. Mais ceci n'est pas un lapsus, ceci est une vérité. Ils sont comme dans de grands nuages obscurs, ne sachant pas où ils sont, comme s'ils s'étaient plongés dans une ignorance qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Alors, ceci, c'est le plan de l'astral pour toutes ces âmes qui sont dans l'astral et qui sont, nous dirons d'une certaine façon, liées à chacun de vous, c'est-à-dire liées à celles de vos cellules qui ne sont pas encore libérées de ces peurs ou de ces douleurs ou de cette souffrance ou de cette mort ou de cette haine ou de ce désir de conquérir un territoire. Vous pourriez dire aussi que ces trois plans de l'astral correspondent à la personnalité, c'est-à-dire que la personnalité est quelque chose qui est apprise venant du dehors. Lorsqu'un enfant naît, il n'a pas de personnalité, il vient dans un état vierge, mais voici qu'il reçoit des commandements de ses parents, de ses professeurs, de ses collègues d'école ou ensuite de ses collègues de travail, de ses patrons, de la société tout entière et ensuite à travers des films ou à travers toutes ces images de télévision qui vous sont présentées. Alors sachez bien que rien de cela n'est indifférent parce que tout cela, ce sont des vibrations et les vibrations viennent vous toucher. Alors lorsque vous êtes touché par une agglomération de vibrations, il se peut que certaines de vos cellules deviennent contaminées d'une certaine façon. Ensuite, il y a d'autres plans. Des plans où il y a la paix, où il y a la sérénité, où il y a la conscience. Le plan de la conscience commence avec le quatrième plan de l'astral qui correspond aussi au chakra du cœur. Et nous dirons que ce quatrième plan de l'astral est un lieu d'ouverture. Les âmes qui ont quitté le plan et qui sont, nous dirons, dans cet état, puisque nous avons dit que l'astral pouvait être un état autant qu'un lieu, nous vous dirons que ces âmes sont d'une certaine façon presque déjà dans une ouverture de lumière qui leur permet de regarder en bas sans se faire coincer. Comme cet homme qui monte dans la montagne et qui n'a plus le goût de retourner dans la taverne. Mais étant donné que le passage du cœur est un lieu initiatique et que personne n'échappe à passer dans ce lieu, nous vous dirons que le cœur nuit ne se contente plus, nous dirons, d'échapper aux vibrations des chakras de la base. Mais ce qu'il fait, c'est que dans sa pyramide qui reposait sur sa pointe, il se tourne vers le haut, vers des vibrations supérieures. Et alors il devient comme l'homme du commentaire d'ouverture qui n'en peut plus d'être dans la taverne et qui n'a qu'un désir et qu'un espoir, c'est celui d'aller au sommet de cette montagne. Alors voici que la conscience commence à s'amenuiser, qu'elle commence à s'ouvrir, qu'elle commence à fleurir d'une certaine façon. Mais plus elle devient consciente, plus elle vous révèle les obscurités, c'est-à-dire plus elle vous révèle ce qui se passait dans la taverne. Nous vous dirons les parties de vous qui sont encore dans l'obscurité, les parties de vous qui ne sont pas encore guéries, les parties de vous qui supplient pour devenir lumière, alors qu'elle se croit obscurité. Lorsque vous avez franchi ce plan de l'astral, qui est le plan du cœur, et il est toujours, nous dirons, de façon parallèle vécu par d'autres âmes qui ont quitté le plan terrestre, mais qui sont là, près de vous, dans ces mêmes niveaux, là, vous commencez à aspirer à développer une individualité qui est comme une sorte d'affirmation de votre propre énergie, qui est comme, nous dirons, le rapport de votre pouvoir. C'est comme si tout, nous dirons, toute la... Comment pouvons-nous dire ceci? Tout le pouvoir que vous avez donné à des personnes extérieures qui vous ont influencé, vous commencez à rapatrier ceci et à le regarder à travers vous-même. Et là, à faire des choix. Non pas faire des choix en fonction de vos parents, en fonction de votre conjoint, ni de vos enfants, ni de la société, mais en fonction de vous-même. Cette étape suppose que vous allez développer la partie créatrice et la partie voyance de vous. Car la voyance, ce n'est pas uniquement d'être médium ou d'être capable d'aller chercher des éléments du futur. La voyance, c'est une capacité de se voir soi-même, de se regarder soi-même dans son propre miroir pour s'apercevoir, c'est-à-dire d'être capable de juger si vous retournez dans, nous dirons, dans ces plans que nous appelons inférieurs sans les juger, ou nous les appellerons la taverne, c'est moins jugeant, n'est-ce pas? Alors si vous retournez dans la taverne pour vous y complaire, ou si vous retournez dans la taverne par conscience pour être capable de délivrer les parties de vous qui sont encore dans l'obscurité et qui ont besoin d'être amenées dans la lumière, d'être investies, d'être dans la foi qu'elles sont lumière. Alors, lorsque cette voyance est bien développée, vous commencez alors à contacter d'autres vibrations. Ces vibrations sont, nous dirons, parallèles au chakra de la couronne. C'est le mur. Nous dirons que ce mur, c'est l'attrait. L'attrait vers la lumière. L'attrait vers quelque chose qui est inconnu. L'attrait vers un état de paix, un état d'amour, un état de partage, un état de, complicité d'âme que vous n'avez jamais connu, nous dirons, dans les vibrations de taverne. Alors, lorsque vous commencez à avoir ces inspirations et ces aspirations, les choses changent. Elles changent rapidement et radicalement. Alors, vous vous heurtez comme contre un mur. Et plus votre désir est grand de traverser le mur, plus le mur est haut et plus le mur est épais. Mais à quoi sert ce mur, direz-vous ? Il sert à vous solidifier, il sert à vous convaincre, il sert à vous donner le courage de traverser ce mur. Et alors, à ce moment-là, vous êtes l'initié du septième plan et l'enfant, à l'intérieur de vous, qui est la sagesse absolue que vous êtes, va vous prendre par la main et vous montrer le lieu secret par où vous pouvez aller au sommet de cette montagne, c'est-à-dire au-delà même des plans d'illumination. Là, ce que vous verrez, vous ne l'oublierez jamais. Lorsque Paul de Tarse disait « Je suis allé quelque part, je ne sais pas si c'était avec mon corps ou sans mon corps, mais ce que je sais, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Jamais l'oreille humaine et jamais l'œil humain ne l'ont vu ou entendu. » Et alors ce qu'il disait, c'est qu'il avait touché l'état de fusion. Mais comme il était un être qui avait une conscience très large, il a accepté de revenir sur le plan terrestre comme plusieurs autres qui sont parmi vous et qui avaient accepté de redescendre même dans la taverne, mais pas uniquement pour vous, pour la collectivité de vos frères. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas canal uniquement de vos propres obscurités que vous entraînez vers la lumière, mais vous êtes canal de l'obscurité de la terre, de l'obscurité de tous vos frères qui cherchent cette lumière, parfois sans savoir qu'ils la cherchent. Alors, vous devenez canal. Et nous vous dirons, lorsque vous serez 5 000 et 5 000 rassemblés, vous aurez alors vos corps de lumière. vous aurez franchi collectivement le mur, et alors vous connaîtrez profondément la Jérusalem céleste, quelque chose qui ne peut pas être compris actuellement, ni par votre pensée, ni par vos sens, ni par rien de ce que vous êtes. Vous pouvez uniquement en avoir l'aspiration, mais pas encore la connaissance. La connaissance viendra lorsque le 144 000 sera véritablement rassemblé au sommet du mur. Et nous vous y souhaitons la bienvenue. Maintenant, nous serions prêts pour répondre à vos questions.
Est-ce possible, c'est au moment, à ce moment-ci, de nous éclairer davantage? Nous éclairer davantage, justement, par rapport à ce 144 000-là, puisque vous avez déjà mentionné dans d'autres cassettes que par le travail qui a été fait par Brian Grattan lors de son passage ici, que le 144 000 était déjà fait et accompli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un autre 144 000?
Alors, ça, c'est bien. C'est un autre wagon du chariot blanc. Comprenez-vous, ce que vous devez saisir, c'est lorsque nous parlons de 144 000, nous ne faisons pas un chiffre qui est limitatif, mais bien plutôt un nombre que vous pourriez appeler un nombre d'agglomérations d'âmes. Lorsque nous avons parlé à ce sujet de Brian Grattan, nous avons dit qu'il y avait 144 000 maîtres qui attendaient au septième du septième plan de l'astral, c'est-à-dire au 49e plan, qui attendaient d'être 144 000. Ils étaient 144 000 moins 1. Lorsque Brian Grattan a quitté le plan terrestre, le nombre était suffisant pour que cette paroi de l'astral puisse être brisée et que cette ascension collective puisse être organisée. Alors, nous vous dirons, c'est comme si c'était un véhicule ou un Merkaba qui a traversé les plans. Mais ici, actuellement, vous êtes en train de créer d'autres Merkaba ou d'autres véhicules de lumière où vous vous agglomérez, où vous vous rassemblez. Nous vous dirons, vous vous rassemblez sur le plan physique, mais vous vous rassemblez surtout dans d'autres plans. Parce que dès que vous avez franchi, nous dirions, le sixième plan de l'astral, nous pourrions dire le cinquième, sixième et septième plan de l'astral, et qu'il y a une grande partie de votre être qui est déjà presque quotidiennement dans cet état, alors c'est comme si vous formez des agglomérations. Est-ce que vous comprenez ce langage? Nous le souhaitons. Vous formez des agglomérations jusqu'à ce nombre parfait de 144 000 et alors le véhicule peut quitter. Mais il ne quittera pas tant que le 144 000 n'est pas complété. Est-ce plus clair?
C'est possible de nous mentionner à ce moment-ci, au niveau du cinquième chakra, au niveau de la gorge. Qu'est-ce qui se passe au juste actuellement, étant donné qu'il y a énormément de travail qui se fait non seulement dans cette salle ici, mais un peu partout?
Bien sûr. Nous allons vous dire que si vous êtes capable de voir ou de percevoir l'être humain comme un sablier, vous allez voir que la gorge, c'est la partie la plus fine du sablier, c'est-à-dire le lieu par lequel le grain de sable passe seul. C'est-à-dire c'est le lieu de l'épreuve, c'est le lieu de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire que c'est le lieu où vous quittez d'une façon presque définitive les encodages, c'est-à-dire les encodages qui vous maintenaient dans cette caverne. Alors, lorsque vous avez réussi à franchir cette étape, nous vous dirons, là, il y a comme un cran d'arrêt qui est mis et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous pouvez bien sûr descendre accompagné dans cette taverne pour voir encore des parties obscures de vous qui peuvent se manifester dans l'énergie de vos frères autant que dans votre énergie pour les amener dans cette lumière. Mais pour que ce cran d'arrêt soit mis, il faut que vous ayez franchi, nous dirons, la partie de la gorge qui est le lieu secret, le lieu de la création, le lieu de la perfection, mais le lieu où il faut mourir à ce qui est en bas. Non pas mourir d'une mort qui est un jugement ou d'une mort qui est, nous dirons, un rejet, mais bientôt d'une mort qui est une vie, c'est-à-dire qui entraîne l'obscurité dans la lumière. Alors, il ne faut pas vous étonner que beaucoup parmi vous, vous ayez des difficultés qui se manifestent au niveau du chakra de la gorge. Nous vous dirons à ce moment-là, visualisez la glande thyroïde et parathyroïde et envoyez beaucoup de lumière, surtout de la lumière de couleur turquoise, d'un turquoise très vif et très intensif. Et nous vous dirons, la lumière fera son travail. Et d'ailleurs, nous vous dirons que le serpent turquoise ou le serpent bleu a déjà commencé à donner ses injections. C'est le serpent de la résurrection, celui-là. Ce n'est pas le serpent de la mort. Et alors, il a commencé déjà à faire ses injections dans le cerveau, dans la colonne vertébrale et dans les glandes les plus importantes du corps humain. Lorsque nous parlons de ce serpent bleu, nous parlons, nous dirons, du serpent inversé, si nous pouvons dire ainsi. Car sachez bien que tout ce qui vous a été révélé dans les livres sacrés, qui vous révèlent, par exemple, comment s'est comporté le peuple qui cherchait cette lumière et qui était conduit par Abraham ou par Moïse ou par d'autres, comment ils étaient... Ils sont le reflet de ce qui se passe en haut. C'est comme toute cette histoire vous a manifesté ce qui était vécu sur le plan uniquement pour vous montrer dans le miroir ascendant comment vous êtes attiré ou comment vous devancez le peuple de vos cellules pour amener toutes ces cellules dans la conscience et dans la lumière. Puisque chacune de vos cellules sont, nous dirons, des êtres intelligents. C'est pourquoi avait été écrit par Sri Aurobindo le mental des cellules. Et Mère expliquait bien que chaque cellule humaine est très intelligente et alors elle doit sortir de son sommeil, sortir de sa glu, sortir de ses trois chakras de la base pour être capable, non pas, nous dirons, de juger la taverne ou d'y mettre le feu, mais de savoir que ce n'est plus là que vous avez envie de vivre ou de respirer, puisque c'était le lieu expérimental, mais aussi un lieu terminal.
Alors, la prochaine question, il y a deux questions qui se chevauchent ici. Je les lis toutes les deux. Les lieux que l'on appelle enfer et purgatoire sont des créations de l'esprit humain. Mais il y a des âmes qui sont emprisonnées dans ces lieux. Comment les aider? Et la deuxième question, s'il y a des âmes qui, après leur mort, errent dans les mondes spirituels, ces âmes égarées, comment leur venir en aide?
Vous dirons d'abord, dans un premier temps, savoir que ces âmes sont le reflet de vous-même, sont le reflet d'une partie de vos cellules, puisque vous n'êtes point divisés les uns des autres. La division, c'est aussi une pensée humaine. Alors, étant donné que vous n'êtes pas séparés de ces âmes qui sont errantes, qui sont dans l'astral, qui sont dans l'enfer, qui sont dans les limbes, qui sont, nous dirons, dans toutes ces créations de la pensée humaine, nous vous dirons, si vous voulez aller les chercher, commencez d'abord par descendre à l'intérieur de vous, les reconnaître à l'intérieur de vous. Et sachez bien, et n'oubliez jamais ceci, chaque fois que vous libérez une partie de vous vous libérer des multitudes d'êtres qui libèrent en même temps que vous cette même réalité ou ce même blocage ou cette même fermeture. Alors, sachez que oui, l'enfer existe, mais souvent il existe à l'intérieur de vous. Le purgatoire existe, il existe à l'intérieur de vous. Et pourquoi donne-t-il lieu à un lieu extérieur? Uniquement parce qu'il est maintenu dans l'énergie. Alors, plus vous maintenez vos enfers, c'est-à-dire vos colères ou vos haines contre vous-même, ou vos jalousies, ou vos obsessions, à ce moment-là, vous maintenez vos enfers. Observez bien chacun d'entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous avez eu l'impression d'être tellement abandonné, d'être tellement rejeté, d'être tellement laissé pour compte que vous aviez l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir et de tourner en rond dans un enfer? Et est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous avez goûté l'amour, où vous avez goûté la vérité avec vous-même, où vous avez goûté, nous dirons, l'extase de la conscience, et où vous avez dit, là, j'ai l'impression d'être dans le ciel? Alors c'est là qu'est le ciel, et c'est là qu'est l'enfer, et c'est là qu'est le purgatoire. Alors, nous vous dirons que ces âmes qui ont besoin d'aide et qui crient, nous les entendons crier dans ces plans, nous dirons, plus restreints, plus étroits et plus sombres de l'astral. Nous les entendons hurler et pleurer et crier au secours. Alors, dites-vous bien que chaque fois que vous acceptez de vous transformer vous-même, vous libérez ces âmes.
C'est possible de rallier le rôle du sauveur à ce que vous venez de mentionner?
Certainement. Nous vous dirons, lorsque vous êtes rendu au septième plan de l'astral, c'est-à-dire au sommet de la montagne, avant de traverser le mur, car le mur, savez-vous ce que c'est? Ce sont les masques subtils, ce sont les jeux subtils. Alors, lorsque vous êtes au sommet de la montagne, bien sûr, ce n'est pas en fumée comme dans la taverne, n'est-ce pas? Et alors, les choses semblent devenir beaucoup plus claires et plus transparentes. C'est pourquoi, nous vous dirons, l'ego grossit. Il prend toute sa force, il prend toute sa forme. Et là, il ira vous chercher des instruments d'une façon tellement ratoureuse que vous aurez l'impression que vous devenez sauveur de l'univers alors que vous vous éloignez de vous-même. Il en est de même du jeu de sauveur. Vous savez, les sauveurs, ils sont plus facilement loués que les victimes et que les persécuteurs. Est-ce que vous avez déjà observé à la télévision qu'on faisait, par exemple, des recommandations ou que dans vos rues, on faisait des marches, nous dirons, en faveur des sauveurs? Est-ce qu'on ne fait pas cela en faveur des femmes violentées ou des enfants aussi violentés ou, nous dirons, pour la paix ou contre la guerre ou ainsi de suite? Et vous ne faites jamais ces marches pour les sauveurs. Et l'énergie du sauveur, c'est l'énergie la plus subtile en termes de masque. Parce que, sans le vouloir, elle vous éloigne de vous. Elle vous empêche d'aller profondément à l'intérieur de vous, voir les parties obscures. Celui qui sauve les autres voit la blessure de l'autre, mais souvent, celle-ci est un moyen pour qu'il ignore la sienne. Alors, si vous avez cette conscience que vous êtes dans l'énergie de sauveur, que vous admettez que vous êtes dans l'énergie de sauveur, déjà, vous avez franchi 80% de la barrière. Mais nous vous dirons, le 20% qui reste à franchir est plus subtil et plus difficile à franchir que peut-être les 48 marches précédentes que vous avez traversées. Et pourquoi? Pour la même raison que celle qui a été donnée dans le commentaire d'ouverture. plus le mur est haut et plus le mur est épais, plus, nous dirons l'initié, peut se mesurer à lui-même, se mesurer à sa taille de géant, se mesurer à sa puissance. Et alors, lorsqu'il a franchi cette étape, il peut monter par les lieux secrets, qui est le lieu intérieur, le lieu de son propre cœur, en contact avec son propre cœur. Et alors, il attire, sans rien faire, il attire des gens dans ce lieu secret.
La prochaine question, c'est: que penser des voyages astrales ou voyages en dehors du corps?
Nous vous dirons d'abord, vous devez décoder que lorsque nous avons parlé de l'astral ce soir, nous en avons parlé comme un lieu et nous en avons parlé comme un état. Et nous ajouterons à ceci que nous avons fait une comparaison avec vos chakras, c'est-à-dire les étapes que vous avez à franchir, puisque chacun de vos chakras sont un des 7 paliers que vous avez à franchir avant d'atteindre l'illumination. Et il faut avoir atteint l'illumination avant d'aller au sommet du mur et franchir ces plans, car l'illumination n'est pas le but définitif, c'est la piste de départ. Quelle était cette question?
Par rapport au plan astral.
Alors, nous vous dirons, lorsque vous décidez de faire des voyages dans l'astral, dites-vous bien que vous prenez parfois des risques. Et le risque que vous prenez, si vous n'êtes pas véritablement solide avec vous-même et souvent accompagné, vous prenez le risque de contacter des âmes qui vont vouloir devenir parasites de votre énergie. Et dans cela, il y a un danger. Ou bien vous allez vous propulser, nous dirons, au-dessus du sommet du mur, alors que vous n'avez pas fini de régler vos factures dans la taverne, et là, vous allez vous écrouler en bas du mur. Comme des gens qui cherchent à être tellement spirituels qu'ils oublient qu'ils ont des choses à finir de régler, des aspects karmiques à finir de régler, des visions intérieures de leur propre énergie, de leur propre courant d'énergie pour être capables de savoir s'ils sont sortis véritablement de l'attraction, de la loi d'attraction et de répulsion. Alors nous vous dirons qu'il y a un danger de se propulser trop rapidement dans des états spirituels, nous vous dirons comme le 6e ou 7e plan de l'astral, et en ignorant les choses à changer. Et il est aussi dangereux de aller dans les plans de l'astral uniquement pour s'amuser. Si vous le faites de façon accompagnée, il se peut que ceci vous serve de thérapie et vous permettre d'aller contacter des âmes avec lesquelles vous avez des aspects karmiques à régler et avec lesquelles vous pourrez les régler très rapidement parce que vous serez dans un état second, c'est-à-dire dans un état qui n'est pas manipulé par le mental ou par la forme physique ou par la forme émotionnelle. Ceci est une projection. Alors, pour être capable de ne pas vous laisser, nous dirons, atteindre dans l'énergie, lorsque vous décidez de faire ces projections à l'extérieur de votre corps, et ceci est très légitime, placez-vous toujours dans un œuf. Placez-vous dans un œuf de lumière, de couleur or, et demandez à votre moi supérieur d'aller dans ces plans uniquement pour connaître des choses de votre vie passée, présente, ou de votre vie passé, de toutes vos vies passées, pour être capable de libérer ce qui reste à libérer à l'intérieur de vos énergies. Et vous pouvez aussi faire ces voyages dans l'astral pour aller contacter des plans supérieurs, des plans de lumière qui vous mettront tellement en appétit que vous aurez le goût de régler rapidement vos factures pour y retourner.
Alors, la prochaine question, c'est comment reconnaître le pouvoir dans les entités du haut astral?
Nous vous dirons, d'abord, dès que les entités ont franchi l'étape que nous avons appelée l'étape étroite du chakra de la gorge, c'est-à-dire des âmes qui sont liées au plan, nous dirons, qui serait selon les chakras vers le troisième œil et le chakra de la couronne, nous vous dirons que ces entités ne devraient pas vous tendre des pièges ou ne devraient pas non plus, nous dirons, vouloir vous entraîner dans l'obscurité. Bien au contraire, nous vous dirons, elles ont très avantage de vous accueillir, de vous accompagner et nous vous dirons par ce moyen de se gagner des points. Ça, c'est entre guillemets et c'est, nous dirons, uniquement une métaphore. Alors, ne prenez pas ceci comme gagner des points lorsque vous étiez à l'école. Mais nous vous dirons, lorsque quelqu'un, dans la compassion et dans ses plans, il y a l'énergie de la compassion, lorsque quelqu'un dans la compassion tend la main à quelqu'un d'autre, nous vous dirons, il se tend la main à lui-même et se permet de franchir des étapes. Alors, nous ne disons pas qu'il faut se méfier des êtres qui sont au sommet de l'astral. Cependant, nous vous dirons, méfiez-vous plutôt de vos comportements. Ça, c'est plus facile de se méfier des êtres qui sont là-bas, inconnus dans l'astral, que de se méfier de ce qui appartient à soi-même. Et c'est une bonne fuite.
La question parlait des pouvoirs des entités du haut astral. Est-ce possible de nous en parler peut-être un peu
Bien
plus
sûr.
De ces pouvoirs?
Nous vous dirons les entités qui sont dans les plans, dans les sommets de l'astral, c'est-à-dire dans les plans d'illumination, les pouvoirs qu'ils ont, ce sont les pouvoirs de vous donner la main, de vous accompagner. Nous vous dirons, beaucoup de personnes qui sont parmi vous, par exemple, ont comme guide des gens qui sont du sommet de l'astral. Et nous vous dirons que ces guides acceptent d'accomplir cette tâche, de vous accompagner pour vous éveiller à la conscience, de vous donner des multitudes de signes pour que vous arriviez à mieux saisir. Eux, ils le font pour se réaliser et s'actualiser eux-mêmes et se permettent toujours d'avancer dans cette spirale de l'astral. Alors, dans leur tâche, ils peuvent être d'excellents accompagnateurs, si c'est de cela que vous parlez en termes de pouvoir. Ils ont aussi le pouvoir d'émettre des sons et d'émettre des vibrations que, si vous avez des ouvertures dans votre aura pour les recevoir, vous pourrez recevoir, par exemple, en état de rêve, des enseignements très pertinents à votre évolution.
C'est clair en partie ce que je ressens comme vibration actuellement. C'est comme dans cette question, il y a une forme de méfiance par rapport, je sais pas moi, à être envoûté ou encore à être miroité par quelque pouvoir quelconque.
Nous vous dirons que, bien sûr, si vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, vous pourriez être envoûté par le soleil lui-même. Être envoûté, c'est donner son pouvoir en dehors. Alors, bien sûr, il y en a parmi vous qui ont si peu confiance en eux-mêmes qu'ils donnent toute leur confiance et tout leur pouvoir à des êtres spirituels ou supposément spirituels. Par exemple, les uns se lèveront le matin en pensant au comte de Saint-Germain et en disant au comte de Saint-Germain, « Veux-tu faire ceci pour moi, faire cela pour moi, me guider, marcher devant moi ?» Et nous vous dirons que parfois le comte, il se bouche les oreilles et il dit, « Va consulter ton cœur, tu peux marcher toi-même, tu connais déjà la voie. Moi, je peux t'accompagner et je peux être dans cette même vibration ou cette même jouissance de vibration avec toi. » je peux partager avec toi ton souci ou ton désir d'évolution, car le désir d'évolution rendu, nous dirons, au septième plan de l'astral, il n'existe plus, il est. Lorsque l'être contacte le « je suis », elle n'a plus de désir d'évoluer, elle sait qu'elle est déjà un être évolué dans tout son potentiel, et alors elle ne fait que regarder les signes, accepter les événements autour d'elle. Alors nous vous dirons cependant que l'énergie d'envoûtement, c'est une énergie qui existe. Elle existe et elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut se cacher derrière le Sauveur, par exemple. Elle peut se cacher aussi derrière, nous dirons, des gens qui exercent le pouvoir, qui est appelé de la magie noire. Ceci peut exister et des êtres peuvent être envoûtés et envoûtés jusqu'à en perdre leur volonté, jusqu'à en perdre, nous dirons, leur propre boussole, ne sachant plus comment s'orienter d'eux-mêmes et se fiant toujours uniquement à la parole et à la pensée de la personne qui est en face d'elle. Lorsque vous êtes capable de penser par vous-même, lorsque vous êtes capable de vous solidifier à l'intérieur de vous-même et savoir que la vérité vous habite, vous n'avez pas besoin que quelqu'un à l'extérieur de vous vous dicte votre comportement. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'échange, mais toujours ramener les choses à vous et, nous dirons, les centrer à l'intérieur de vous-même. Si vous voulez savoir si vous êtes envoûté par quelqu'un d'autre, observez si vous êtes habité par sa pensée. Si vous vous levez le matin et que vous avez cette personne dans votre tête, vous marchez dans la rue, vous l'avez dans votre tête, vous allez au travail, vous l'avez encore dans votre tête, nous vous dirons quelque part, vous êtes envoûté par cette personne. Vous pouvez aussi purifier le mot « envoûté », car sachez bien que vous ne pouvez pas être envoûté si vous-même, vous n'avez pas donné la clé de votre pouvoir. Alors, lorsque vous constatez que vous êtes habité par quelqu'un, dites-vous, avec une bonne tape sur l'épaule, je suis très content parce que ma conscience s'ouvre et que là, je suis capable de voir que je me laisse envoûter, que je donne mes pouvoirs à l'autre, que je me crée des besoins pour que l'autre vienne répondre à mes besoins. Et alors, à ce moment-là, vous ferez la démarche nécessaire pour être capable de rapatrier votre pouvoir et votre territoire. Sans jugement, ni pour vous, ni pour l'autre.
Je ferai un peu d'eau.
Ah, ça, c'est excellent. Merci.
Alors, la prochaine question, c'est où se situe la sixième race par rapport à l'astral?
Nous vous dirons qu'elle se situe au chakra de la gorge, entre le chakra de la gorge et le chakra de la couronne. Parce que les gens qui entrent dans cette étape de la sixième race sont des gens qui sont suffisamment conscients pour être capables de passer de l'état de consommation à l'état de communion. Alors, lorsque quelqu'un sort de l'état de consommation, vous pouvez mettre cette consommation à tous les niveaux, même la consommation du spirituel, et que vous entrez plutôt dans une étape de communion. Et cette étape de communion, elle passe ici, par le Saint Graal. Elle passe par ce passage étroit de la gorge et elle ramène l'être complètement à lui-même. C'est-à-dire que là, il est habité par sa propre énergie, il est habité par lui-même. Il est envoûté par lui-même d'une certaine façon. Nous lavons ce mot « envoûté » et lui donnons de la lumière. Alors, il est envoûté par lui-même, non pas envoûté dans le sens d'égoïsme, mais dans le sens d'un contact avec la totalité de son être. Alors, nous dirons que c'est le passage étroit de la gorge qui permet de franchir rapidement les autres étapes et ensuite d'amener vers la septième race. Mais la sixième race commence ici et elle se termine là. Pour ceux qui entendent sur la cassette, ce n'est pas bien clair, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, elle part de la gorge et va jusqu'au sommet de la tête. Et au-dessus du sommet de la tête commencent les autres chakras dont nous avons déjà parlé. Et quand vous commencez à aller habiter ces lieux, nous vous dirons, la joie vous habite aussi.
Bien-aimé enseignant, pouvez-vous me dire si mes rêves nocturnes me conduisent toujours sur le plan astral?
Nous vous dirons que les rêves nocturnes sont très variés, très nombreux et très différents. Il y a des rêves qui sont compensatoires et qui ne font que vous permettre de libérer des tensions que vous avez accumulées pendant le jour. Il y a d'autres rêves que vous faites qui sont là pour vous instruire, c'est-à-dire pour vous donner des signes évidents de choses que vous auriez à changer, à transformer, à améliorer. Il y a aussi des rêves qui sont prémonitoires et qui vous permettent de voir dans le futur, non pas pour voir uniquement dans le futur et vous dire « Ah, moi, je suis bon, je vois dans le futur et je vais vous le prouver », mais de savoir que si votre âme vous permet de voir dans le futur, c'est parce qu'elle vous prépare. Elle vous donne ces signes prémonitoires pour que vous ayez le temps de vous préparer. Il y a d'autres rêves qui viennent de d'autres plans, qui sont au-delà des sommets de l'astral ou dans les plans supérieurs de l'astral et que vous pourriez appeler des songes, comme les songes qui étaient donnés à ces prophètes dans l'Ancien Testament. Par exemple, Jacob qui voit l'échelle qui part du ciel et qui descend sur la terre et qui a 49 marches. Et qui permet, nous dirons, aux anges, c'est-à-dire à la partie plus lumineuse de vous, de descendre jusque dans votre taverne pour venir vous convaincre, comme le faisait l'enfant, de venir respirer au sommet. Alors, nous vous dirons, les rêves sont très variés. Il est important que par rapport à vos rêves, vous ne laissiez pas votre ego vous nourrir, c'est-à-dire recevoir les rêves comme une manne et demander à votre moi supérieur que vous puissiez vous servir de cette abondance à bon escient et non point pour nourrir l'ego. Alors là, vous ne vous trompez jamais. Et il se peut que pendant le rêve, vous soyez quelquefois, nous dirons de façon très rare, mais quelquefois amené dans des plans, nous dirons, au-dessus du mur, pour être capable de voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, pour garder éternellement cet appétit.
Et si les personnes que je rencontre dans mes rêves, est-ce qu'ils sont aussi à ce moment-là sur ce plan, c'est-à-dire le plan astral?
Nous vous dirons, il se peut que pendant vos rêves, vous rencontriez des gens qui sont du plan de l'astral. Très souvent, les décédés vont, par exemple, se manifester par le biais du rêve. C'est-à-dire que lorsque l'âme est sortie de son corps, vous y sortez chaque soir, et qu'elle commence à traverser les plans de l'astral, s'il y a une âme qui est de votre famille ou de quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'aide, elle va venir vous rencontrer. Et il se peut fort bien que dans le rêve, elle prenne soit, nous dirons, l'apparence que vous avez connue lorsqu'elle était auprès de vous, ou une autre apparence. Elle pourrait même se manifester sous la forme d'un animal. Mais nous vous dirons ce qui est important, ce n'est pas la forme. C'est que ce que vous décodez et que vous recevez en termes d'enseignement, en termes d'émotion à l'intérieur de cette symbolique. Et nous vous dirons, le rêve est symbolique parce qu'il manifeste très souvent les plans inconscients. Et la meilleure manière de toucher l'inconscient, c'est d'y aller par les symboles. Et c'est pourquoi très souvent, nous vous racontons ces commentaires d'ouverture. Nous savons que si les choses théoriques ne pénètrent pas dans votre mental, alors nous dirons, le symbole, lui, vous aura touché, même si vous ne le savez pas. Nous appellerons ceci des enseignements secrets. Il n'y a pas de secret, n'est-ce pas? Nous venons de le dire.
Alors, comment expliquer l'engouement pour le chamanisme à l'heure actuelle? D'où proviennent les entités derrière ces rituels?
Nous vous dirons, vous n'avez pas à juger le chamanisme. D'abord, nous vous dirons que les chamans sont des êtres qui ont des tâches à accomplir. Ils sont souvent des voyants. Mais parmi les voyants, il y a des voyants dans des plans différents. Nous avons dit qu'il y avait 7 plans dans chacun des plans de l'astral. Alors, il se peut qu'il y ait des gens qui aient une voyance qui ramène beaucoup à la matière. Car nous vous dirons que lorsque vous aurez découvert que la matière a une âme, que la matière est lumière par le dedans, que la matière a une conscience, que la matière est, nous dirons, est intelligente comme vous êtes intelligente, que la matière peut émettre des sons, vous comprendrez que ces chamans qui vont le plus souvent dans le 5e ou 6e plan, ceci dépend, vous n'avez pas à vous fier à tous les chamans que vous voyez. Et nous vous dirons, tous les chamans, les médiums, les maîtres, ils sont des êtres limités aussi, sans quoi ils ne seraient pas sur le plan terrestre. C'est pourquoi vous avez à remener toujours les enseignements à vous pour savoir si vous êtes confortable sans juger. Alors ces chamans, nous vous dirons, ils ont une forme de conscience qui les met en contact avec ce qu'ils appellent l'esprit de la nature, l'esprit du loup par exemple, ou l'esprit de la grenouille, ou l'esprit de l'arbre. Car nous vous dirons, quelque part, ils ont raison, puisque tout est habité par l'esprit. Mais l'esprit se manifeste sous des formes différentes pour donner des signes. Et nous vous dirons, toute la symbolique chamanique est une symbolique qui vient toucher de très près l'inconscient. C'est pourquoi souvent les chamans vont porter des masques ou nous vous dirons, c'est uniquement pour révéler que l'inconscient va chercher à travers toute cette symbolique des enseignements permettant de faire, nous dirons, élargir la conscience. Alors, les chamans, ce sont des êtres qui, s'ils sont des chamans véritables, car il y a de vrais chamans comme de faux chamans. Il y a de vrais médiums et de faux médiums. Il y a de vrais médecins et de faux médecins. Il y a de vrais étudiants et de faux étudiants. Il y a de vrais parents, de vrais enfants, de faux parents, de faux enfants. Alors, développez votre discernement pour voir ce qui est faux et voir ce qui est vrai. Et même ceux qui sont faux, ils ne sont pas à juger puisqu'ils sont eux-mêmes dans cette expérimentation de laquelle ils apprendront pour eux-mêmes.
Ceux qu'on appelle les extraterrestres ou les phénomènes OVNI appartiennent-ils au monde de l'astral ou du physique?
Nous vous dirons, ils appartiennent aussi au monde de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, qui est soutenu par la pensée, a la capacité de créer. Et il y a des gens qui ont une imagination tellement puissante que parfois ils peuvent même voir dans la matière des formes qui n'existent pas pour d'autres. Est-ce que vous n'avez pas des fois observé que certains gens vous diront « Regarde tel phénomène qu'ils voient » alors que vous ne les voyez pas? Alors ceci n'est pas à juger, c'est correct. L'imagination a trop été jugée. Mais nous vous dirons, l'imagination ne peut pas imaginer des choses inexistantes. Donc si elle les imagine, c'est que déjà quelque part dans certains plans, cela existe. Nous vous dirons que ce que vous appelez des extraterrestres Cela existe véritablement. Mais nous vous dirons, ce sont des êtres qui, d'une certaine façon, c'est difficile à expliquer à votre cerveau humain, mais nous dirons comme ceci, d'une certaine façon, prennent forme, mais ils viennent d'un monde sans forme. Nous expliquons. Imaginez par exemple qu'un grand savant est capable d'étudier complètement une planète. Prenez par exemple la planète Mars. Et qu'il regarde cette planète et qu'il dit « c'est une planète qui a telle forme, on pourrait juger après étude, calculer d'après les nombres d'années-lumière pour rejoindre cette planète, qu'elle peut avoir telle dimension et que ses parois sont, nous dirons, accentuées un peu comme des montagnes et que peut-être la texture pourrait ressembler à, nous dirons, une poussière grise très dense. C'est ce que le savant voit de cette planète. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est les habitants qui habitent cette planète. Parce qu'il n'y a pas un télescope, il n'y a pas un œil humain et il n'y a pas encore une science qui a permis de voir les êtres qui habitent cette planète. Alors, vous pouvez en voir le contour sans voir les êtres qui les habitent parce que l'œil n'est pas encore suffisamment développé pour voir ceci. C'est en dehors de l'œil qu'il est possible de voir. Alors il se peut que ces êtres qui habitent partout dans ces univers décident à un moment donné de se rapprocher de la planète Terre et qu'en se rapprochant, ils deviennent plus perceptibles parce qu'ils ont traversé des couches atmosphériques qui permettent, nous dirons, une densification et, nous dirons, presque un contour de leur aura qui leur donne une forme. Alors nous vous dirons que oui, ceci existe, que ce n'est pas dangereux et que s'il y en a qui sont dangereux, ils sont maintenus dans des plans inférieurs de l'astral. Mais si vous maintenez dans les plans supérieurs de l'astral, vous ne pouvez subir aucune injure et aucun mal. Nous devrons bientôt quitter la forme. Nous pourrions peut-être prendre une dernière question.
Il reste une question et elle est la suivante. C'est Tara International par la bouche de son porte-parole. Je lis Benjamin Cream. Nous annonce la présence de Maitreya dans le monde actuellement. Qu'y a-t-il de vrai ou de faux dans ces affirmations? Et quelle influence que ceci peut-il avoir avec la couche terrestre actuellement par rapport à l'astral?
Nous vous dirons d'abord que l'astral, ce pourrait aussi être considéré l'aura de la Terre. Lorsque vous parlez de Maitreya, sachez que cette puissance énergétique, appelée Maitreya, vous pourriez aussi l'appeler énergie christique, et que cette énergie, bien sûr, vient vers le plan terrestre. Elle descend de plus en plus, et nous vous dirons, plus vous évoluez, plus vous vous resserrez dans le canal, c'est-à-dire dans le passage étroit. Nous avons parlé qu'il y aurait un passage étroit pour plusieurs d'entre vous à partir des moments, nous dirons depuis 1988, aller jusqu'à l'an 2002, que le passage serait plus étroit, qu'il y aurait des vagues concernant la sexualité, concernant l'argent, concernant la maladie. Et nous vous dirons, ce passage étroit, ce n'est pas une punition, c'est un passage initiatique qui permet de pouvoir avoir accès à une conscience si grande que l'être puisse recevoir les vibrations christiques ou les vibrations de Maitreya. Alors, lorsque Maitreya est annoncé, ceci est juste. Mais nous vous dirons, si on lui donne une forme, si on dit « il est ici », il est là, comme il était dit dans l'Évangile, lorsque Jésus disait, lorsque les temps derniers viendront. et qu'on vous dira « Le Christ est là, viens, viens le voir », alors ne croyez pas ceci. Ceci ne veut pas dire que l'énergie christique ne pleut pas sur le plan terrestre et qu'elle n'y vient pas. Mais nous vous dirons ce grand corps christique, ce seront tous ces Merkaba, car chacun de ces Merkaba contenant 144 000 cellules seront des cellules de ce grand corps christique qui se manifestera pas uniquement à travers un être, mais qui va se manifester à travers une collectivité. Il se peut cependant qu'il y ait des maîtres, non seulement il se peut, mais il est véritable qu'il y a des maîtres qui viennent sur le plan terrestre et qui parfois peuvent se manifester dans la matière pour canaliser l'énergie christique ou canaliser l'énergie de Maitreya, ainsi que Jésus a canalisé l'énergie christique. Mais ne confondez pas le canal avec l'énergie elle-même. Ça, c'est très important, même pour le chariot blanc.
Est-ce qu'on peut vous demander, peut-être comme dernière information, la Terre? Elle est où, au jeu, dans son développement par rapport au plan astral?
Nous vous dirons d'abord que la Terre que vous voyez, ce n'est pas la Terre. Ça, c'est étrange, n'est-ce pas? C'est comme si la Terre était enceinte d'elle-même. Vous savez, le bébé, ce n'est pas la maman. Mais nous vous dirons, pourtant, il est tout entier en elle. Voyez la même chose de la Terre. Dites-vous que la Terre est enceinte de sa propre conscience, qu'elle est enceinte de son propre Christ intérieur et que la Terre va subir, comme chacun d'entre vous qui passez par ce passage étroit, elle va subir des secousses, elle va subir des tremblements, elle va subir, nous dirons, des purifications. Elle va devoir aller dans sa taverne pour se libérer de ses énergies de guerre. Mais nous vous dirons que la Terre est accompagnée, que Sanat Kumara en prend un soin jaloux et que toutes les âmes qui acceptent de quitter volontairement et nous dirons de façon définitive leur taverne et qui investissent toute leur énergie pour sortir de cette taverne et aller au sommet de la montagne, nous vous dirons qu'ils sont des grands participateurs à la reconstitution de cette terre, et qu'alors la terre, elle est peut-être en thérapie dans le moment, parce qu'elle a besoin d'excellents thérapeutes. Mais chaque fois que vous travaillez sur la terre de votre propre cœur, la terre elle-même subit cette vibration.
Merci.
Alors, avant de vous quitter, nous allons vous dire, lorsque par conscience vous irez dans la taverne, nous serons avec vous. Nous serons avec vous comme une insistance pour que vous regardiez véritablement si vous y êtes par complaisance ou si vous y êtes par conscience. Car plus les temps vont presser, et lorsque nous disons le temps presse, c'est comme si nous disons le temps fait pression pour que vous évoluiez. Comme l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère et qu'il subit les contractions, ces contractions, ces pressions l'obligent à naître. Il en est de même pour vous. Alors, lorsque vous irez par complaisance dans la taverne, nous irons faire des pressions pour que vous puissiez naître à cette lumière, à cette totalité, à cette unité que vous êtes. Et nous vous dirons, chaque fois qu'il y en a un d'entre vous qui a cette conscience, ce n'est pas uniquement la Terre qui évolue, mais le cosmos et les milliards de cosmos tout entiers. Alors que la paix, que la sérénité et que la montagne vous attire. Amen.
Alors nous remercions le chariot blanc. Nous remercions cette réflexion dans notre véhicule de conscience supérieure. Nous remercions également de nous miroiter l'unification de tous ces autres véhicules que vous appelez des Merkaba. Comme quoi tout ceci fait partie de nous.
Exactement.
Alors nous accueillons cette conscience collective supérieure dans un simple ainsi soit-il. Alors suivant le besoin, veuillez s'il vous plaît ajuster tout au vibratoire, le système sanguin et tout système physiologique qui ont pu être ralentis au niveau de la forme, afin que ceux-ci reprennent leur vibration dans le ici et maintenant.
This is done.
Alors que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.